Now in the Canu Info.
Épisode 2, le travail social à l'épreuve de la lutte. Nous continuons cette semaine notre balade avec la ruche des citoyens et la CNT 69. On parle maintenant de lutte et de travail social. Quelles limites se posent aujourd'hui les travailleuses et les travailleurs sociaux dans leur lutte? Quels risques pourrait-on prendre et surtout comment s'en défendre? On retourne un peu notre regard et on découvre que des combats sont possibles.
Radio Canu!
Mais du coup, concrètement, comment on fait quand on est travailleur ou travailleuse sociale pour aller occuper les locaux du CCAS ou de la MDR qui, du coup, théoriquement, sont plutôt les gens qui vont nous financer ou qui vont être un petit peu les preneurs de décision? Quels risques on prend et comment on fait pour amener les gens à venir occuper ces locaux malgré les risques potentiels?
Après, c'est vraiment une question de posture professionnelle et militante. C'est parfois compliqué, hein, surtout sur les petites localités, que les gens veulent nous mettre un peu sur toutes les mêmes places et de dire voilà, c'est aussi je fais mon taf en tant que travailleur social, mais j'ai aussi une posture militante et politique sur un acte que je pose. Ça a pu être compliqué à un moment donné pour une militante de notre syndicat qui du coup était aussi salariée de par exemple d'une mairie, d'être dans ces positions-là. Pour certains, c'est plus simple parce qu'ils sont salariés d'une association, même s'il y a une subvention qui est donnée par la mairie. C'est pas parce que du coup il y a une subvention de l'État, de la mairie, que ça doit nous empêcher d'avoir des initiatives. Et on est face après à un choix. Du coup, est-ce que ces associations, ces financeurs, pardon, sont aidants ou du coup sont maltraitants? Si à un moment donné ils sont maltraitants, c'est de la responsabilité, il me semble, du travailleur social de mettre des choses et de les interpeller en tant que financeur et responsable des actes qu'ils posent. Parce que ce qu'il est clair, c'est qu'il me semble sur l'ensemble des communes, la volonté politique, c'est qu'il n'y ait pas de décès sur leur propre commune. Donc le reste, après, on n'en a rien à taper si les gens dorment dehors ou pas.
Canu Info du vendredi.
Et du coup, là, on parle d'occuper des CCAS, on parle d'ouvrir des bâtiments vides de la DAPI. Comment on se retrouve, en fait, avec cette question du légal, en fait?
Alors, la question du légal, est-ce qu'elle est, à mon avis, elle n'est pas à questionner par rapport à des professions? C'est comment on se situe personnellement. On peut retrouver sur ce type d'action des gens totalement différents, avec des professions différentes et des âges différents, hein. J'ai le souvenir d'une ouverture d'une maison où il y avait la présence d'une femme de 80 ans qui était là. Donc, il faut qu'ils arrêtent, les travailleurs sociaux, avec la loi. Je crois qu'à un moment donné, si la loi n'est pas bienveillante auprès des personnes qu'on s'en occupe, il y a d'autres stratégies à mettre en place, quoi. Tant que la règle et la loi, elle est dans quelque chose de sécurisant, d'apaisant pour les personnes, d'écoute de la personne, ça va, quand elle ne l'est plus, et bien, on se situe autrement. Hein.
À partir du moment où on va rentrer dans des choses un peu plus légales ou qui se rapprochent de l'illégalité, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de défense collective, par exemple un syndicat?
Le syndicat, il peut permettre du coup qu'il y ait quelque chose de collectif qui se met en place, qui peut être aussi un moyen de défense. Après, il a aussi ses limites face à la question de l'illégalité. Il permet déjà de pouvoir défendre une certaine éthique, philosophie et de choix. Et je pense que c'est moins compliqué quand c'est un choix qui est porté collectivement et qu'on sait qu'on peut être soutenu que quand c'est une prise de décision personnelle de faire tel ou tel acte. Mais est-ce que c'est qu'une question de... Est-ce que ça n'appartiendrait qu'au syndicat? Je ne suis pas sûr. Je dirais que ça serait plus une question des collectifs, des organes en général. Après, pour moi, la place des syndicats aujourd'hui dans le secteur social, c'est déjà de défendre de bonnes conditions de travail. On voit qu'il y a une évolution du secteur où on passe sur progressivement sur des directeurs qui sont des gestionnaires, sur du secteur marchand et plus sur du secteur social. Du coup, voilà, je pense qu'il est important de défendre ses conditions de travail et que le syndicat, il sert à ça. Le syndicat, il doit être aussi dans l'intérêt des salariés, pas dans une forme de dialogue social au même titre qu'il peut avoir un dialogue social avec l'État ou les mairies. À quoi ça me paraît quand même stérile d'avoir un dialogue social avec les employeurs dans des associations qui sont dans des fonctionnements de gestion. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a aussi de plus en plus de grandes associations. Est-ce que ces associations, quel réel pouvoir ont les directeurs de ces associations? On a l'impression que c'est des courroies de transmission des financeurs.
Canu Info du vendredi, entretien.
Sur les moyens d'action collective, c'est vrai qu'on va souvent entendre à travers ce studio dire oui, mais alors moi je peux pas faire grève parce que si je fais grève, eh ben je suis plus là pour les personnes, et que si je suis pas là, bah du coup je perds le sens de mon travail. Et du coup, en fait, la grève peut être considérée comme plus une trahison que vraiment un moyen d'action collective.
Après, je pense qu'on a du similaire à ce moment-là entre les personnels sociaux et les personnels médicaux, où il y a la même difficulté. Hein. Après, il faut peut-être interroger le côté indispensable. C'est très valorisant d'un point de vue narcissique, peut-être, pour les travailleurs sociaux. Mais sommes-nous vraiment... Enfin, la question d'être indispensable, les gens nous ont connus et avant de nous connaître, ont vécu, ont fait des choses, et elle arrivera bien à se dépatouiller sans notre présence, et elle sera toujours debout et toujours en vie. Et que peut-être, tant qu'on aura cette pensée qu'on est central et essentiel pour la personne, et ben ça nous empêchera d'être sur des mobilisations.
Peut-être on peut essayer d'imaginer d'autres formes de grève ou d'action qui mettent où on soit en collaboration avec les gens qu'on aide, enfin leur dire avec eux, discuter avec eux, voilà, on est en grève, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut pas être différemment avec eux dans ces moments-là, leur en parler, enfin je veux dire, on n'est pas des travailleurs dans une usine, on s'arrête. Là, on s'arrête, mais effectivement, il y a les gens. Alors, est-ce que c'est pas l'occasion? Ça pourrait pas être l'occasion, peut-être, d'avoir avec ces personnes-là un autre type de relation, d'être plus direct, plus humaine, plus, je sais pas, moins professionnel, peut-être.
C'est pour ça que je pense que peut-être remettre en place des comités de quartier, des choses comme ça, ça peut être aidant. Parce que je pense que dans toutes les localités, pour des gens c'est insupportable et qu'ils ne savent peut-être pas trop comment se situer là-dessus. Je pense qu'un groupe comme Nébuleuse est assez large et du coup peut-être amener sur des choses à fédérer des personnes, parce que ça fait peut-être moins peur que sur des questions d'appartenance politique, comme peuvent avoir certains groupes. Donc voilà, et puis la diversité, de ne pas être enfermé que d'être des travailleurs sociaux, que d'être des vieux gauchos, que d'être... Enfin voilà, c'est un peu une ouverture, une mixité sur... Je vais reprendre cet exemple du collectif de Rivolet et de Montblanc qui s'est monté et voilà sur 10 familles du secteur qui, toutes les 15 jours, 3 semaines, des gens qui habitent dans le Beaujolais, et bah, tous les 15 jours, 3 semaines, accueillent actuellement 2 familles chez elles. Voilà.
À la semaine prochaine pour l'épisode 3.